Ce podcast est une production Blabla Studio.
Bienvenue dans Track Record, le podcast qui donne la parole aux DJ. Je suis Pauline de Saint-Sauveur, je suis journaliste et surtout fan de musique électronique. À travers ce podcast, je vous invite à la découverte de personnalités tout aussi passionnantes que leur musique, à une rencontre sans filtre avec des artistes qu'on entend plus souvent jouer que parler. Alors vous êtes prêts pour un tête-à-tête avec les meilleurs DJ? C'est le moment de monter le son et d'appuyer sur play. Bonne écoute! Bienvenue dans Track Record, le podcast qui donne la parole aux DJ. Aujourd'hui, pour le troisième épisode de la saison 2 de Track Record, je reçois le DJ et producteur français Roman Kin. Bienvenue et merci de nous recevoir chez toi à Paris.
Bah de rien, super content de faire cette interview avec vous aujourd'hui.
Pour te présenter rapidement à ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu as fait une entrée stellaire dans le monde de la musique électronique l'année dernière sur le label d'Agoria, Sapiens, avec un premier EP intitulé Consequences. Tu n'as pas arrêté depuis puisque tu as produit plus de 10 titres, dont récemment Where We Belong et Something I See sur le label Siamese, ainsi que des collaborations en cours avec Loseless et Mowgli notamment. Mowgli, notre invité de l'épisode 1, pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté. Ton mélange très personnel, élégant et poétique entre indie et techno, ainsi que ta virtuosité à naviguer entre les instruments, notamment la guitare, et tous les types de machines, portées par une voix et des textes bien à toi, t'a fait te distinguer sur la scène parisienne et bien au-delà, puisque tu es aujourd'hui suivi par les plus grands, d'Adriatic à Darlene Vliss, en passant par Amine Loco. Tu te produis également en live sur des scènes prisées, comme Ritual Festival ou Gardens of Babylon. Cette semaine, tu seras à la Clairière à Paris, aux côtés de Chambord, qu'on avait reçu dans la saison 1. Ta constance, ta productivité et ta personnalité font de toi un artiste incontournable dans le paysage électro actuel et je suis ravie de te recevoir pour cet épisode avant que l'Orphée techno que tu es ne parte sa guitare sur le dos pour d'autres aventures musicales où tu auras certainement moins de temps pour ce type de conversation. Pour commencer sur ton actu, tu reviens de quelques semaines de voyage pour la reprise. Comment est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce qui est prévu pour la Clairière cette semaine ?
Alors ouais, je suis assez content de reprendre un peu les dates parce que j'ai fait une petite pause pour du coup me concentrer sur la production et bosser sur mon live qui est un peu le truc le plus important pour moi en ce moment. Donc là j'ai joué au Scorpios à Mykonos, qui est un endroit où je joue depuis maintenant pas mal d'années. J'y jouais déjà avant quand j'avais un autre projet musical et là j'y joue depuis le début de Roman Kin en fait.
Et en live au Scorpios
pour en live tout le temps, c'est un setup hyper cool pour moi parce qu'en fait c'est l'occasion de tester des trucs un petit peu plus acoustiques. Il n'y a pas forcément une vocation à être un gros dance floor la nuit dans un club, etc. C'est vraiment en mode sunset, donc à 20h, 20h30 quand le soleil se couche. Et du coup, voilà, le setup est vraiment sympa pour pouvoir tester des trucs un peu différents, quoi.
Oui, et surtout l'horaire qui convient aussi plus à, on en parlera, mais à plus peut-être mettre de l'organique que d'être sur quelque chose de très techno.
Ouais, c'est ça, rester dans un truc dense quand même, mais pouvoir tester par exemple des productions à moi qui sont plus dans un format écoute que forcément un DJ. Okay. Donc ça c'est assez cool pour moi, enfin on pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est un truc important pour moi aussi. Et là du coup on va annoncer bientôt plusieurs dates, dont un mini tour en Turquie, des dates à Beyrouth, à New York... Donc des trucs assez cool, un petit festival en Sicile là auquel je pars la semaine prochaine.
Trop bien.
Donc je suis assez content et excité à l'idée de reprendre tout ça quoi.
Et donc c'est un nouveau live en fait. Là c'est vraiment.
En fait c'est la continuité d'un live. J'ai tendance à tout le temps changer mon live en fait.
Ok.
Parce que forcément à chaque fois que je joue il y a des trucs que je vois que j'aimerais faire un peu différemment ou alors il y a des nouveaux morceaux que j'ai envie d'ajouter. Plein de trucs comme ça. C'est aussi essayer de constamment avoir un équilibre entre un truc où moi je m'amuse. Un truc qui marche bien pour ceux qui m'écoutent, évidemment. En fait, il faut trouver le bon degré de risque dans un live. Faire un live tout seul, c'est forcément, du coup, avoir une partie qui est préparée, une partie qui est improvisée. Et voilà, c'est en permanence jouer avec cette jauge, en fait.
D'accord.
Et c'est ça qui prend du temps.
Oui, et beaucoup de préparation, j'imagine, pour être le plus dans l'improvisation au moment M où tu joues.
Exactement, ouais. C'est ça. Trouver le bon degré pour être à la fois à l'aise et à la fois s'amuser et proposer quelque chose de nouveau à chaque fois, quoi.
Et la Clairière, par contre, c'est un DJ set vendredi.
C'est ça. Alors, j'en fais rarement, mais j'en fais quand même quelques-uns. Et c'est l'occasion pour moi de jouer des morceaux. Je joue principalement mes morceaux aussi en DJ set, mais aussi explorer des trucs un peu différents. des morceaux que des amis à moi peuvent m'envoyer, etc. Donc ça, c'est cool aussi. C'est amusant pour moi de faire un DJ set.
Oui, puis ça, j'aurai les deux. Ce qui est sympa, c'est que j'ai déjà des images de toi en live. J'aurai des images de toi en DJ set pour le coup qui iront avec l'épisode.
Voilà. Donc, c'est marrant parce que la dernière fois que j'ai joué à la clairière, c'était aussi en DJ set. Donc c'était hyper cool.
Ah, on a hâte.
J'ai hâte d'y retourner. Ouais.
Et ça sortira, je pense, l'épisode, on aura déjà les images faites. Donc,
okay.
Donc canon. Et on va faire un petit saut dans le temps maintenant pour revenir aux origines de ta passion parce que tu écris, enfin tu composes et tu joues en tant que musicien depuis que tu as déjà 13 ans, je crois. Tu fais tes propres...
Avant, encore. J'ai commencé la musique à 10 ans. Je me souviens, c'était un Noël et mes parents nous avaient chacun offert un instrument. On est trois frères et sœurs. Donc moi, j'avais une guitare, mon frère une batterie et ma sœur un piano.
Donc, tu n'as pas changé d'instrument déjà?
Ouais, j'ai un peu pris le piano aussi.
Ok, mais ça, c'est un peu la base aussi si tu veux composer et avoir un...
Ouais, après, c'est vraiment pour moi aujourd'hui le synthé. C'est devenu un vrai instrument au même niveau que la guitare pour moi en fait. Donc, je m'en sers autant pour composer. C'est vrai qu'à la base, j'étais vraiment guitariste. Mais là, maintenant, le synthé, c'est vraiment un truc très important pour moi aussi. Et je m'éclate autant à jouer du synthé que de la guitare, quoi.
Et guitariste, du coup, parce qu'on a rencontré Mowgli il y a deux épisodes.
Ouais.
Et Mowgli était plutôt rock au départ. Est-ce que c'est aussi ton cas? Parce qu'on sent un peu des influences quand même dans ce que tu fais.
Ouais, complètement. Mais en fait, je viens pas du tout du monde de la musique électronique à la base. J'écoutais énormément de rock. Donc, c'est passé par des grands classiques, du Pink Floyd, Radiohead... pour aller vers des trucs un peu plus Falls, Arctic Monkeys, des trucs comme ça, un peu rock indé. Ouais. Et en fait, j'empiète peut-être sur une des prochaines questions, mais mes influences, c'est vraiment ça, quoi. Et après, en fait, j'ai commencé à découvrir des groupes qui faisaient ce qu'on appelle un peu des crossovers, donc des mélanges entre de la musique électronique et ce type de musique indépendante. Je pense notamment à des groupes comme Mueval, Caribou, Bob Moses... Oui. Des trucs comme ça qui, moi,
Bob
m'ont vachement
Moses,
touché.
Bob Moses, ça va assez avec ce que tu fais. Enfin, je trouve,
j'adore.
Notamment sur la voix, ce qui est quand même assez particulier aussi avec toi.
Ouais. En fait, c'était pour moi, j'ai commencé à explorer, à me dire comment est-ce que je pourrais faire un côté presque band, mais tout seul, quoi. Et du coup, j'ai vu tous ces groupes-là et ça m'a donné envie de créer le projet de cette façon-là. Donc, avec une approche qui reste, je dirais pas organique ou acoustique, mais de songwriter, en fait. Et en même temps, de faire quelque chose d'un peu dance, quoi.
Ça donne une bonne intro à comment tu es un peu arrivé là-dedans. Et alors, mélodique techno en soi, c'est quand même le genre dans lequel tu te définis aujourd'hui ou pas?
Pas trop. En fait, ça dépend ce qu'on appelle la mélodique techno. Moi, j'étais vachement influencé par tout ce qui était la mélodique techno, mais je dirais d'avant, c'est-à-dire les débuts de Tale of Us, les Inner Visions, des choses comme ça, Frankie et Sandrino, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un shift de mélodique techno qui, pour moi en tout cas, me correspond moins comme musique, qui se rapproche plus de l'EDM en fait, donc une musique beaucoup plus grand public et plus populaire. Donc ouais, je dirais que la mélodique techno aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai envie de m'auto-proclamer artiste de mélodique techno en fait.
Ok, mais c'est
intéressant. Plus, je fais de la musique électronique indépendante.
D'accord.
Après, sans que ce soit un nom hyper snob, mais
non.
Je ne saurais pas trop comment l'appeler. C'est pour ça, souvent, je l'appelle indie techno, parce que j'aime bien la techno et le côté indépendant de tout ce qui est rock, etc. Et j'essaie de faire un alliage de ces deux trucs-là, quoi.
Oui, ce qui est tout à fait compréhensible quand on entend tes influences et la façon dont tu veux travailler. Donc là, ça me paraît plus simple. Après, on espère qu'il y aura une catégorie Spotify. Pour ça. Parce qu'ils ont tendance à quand même créer des catégories, donc c'est
Mal. Mais typiquement, des groupes comme Bob Moses, etc., les catégories, elles sont un peu floues. Pareil pour un Weeval ou même pour du Rufus du Sol.
C'est du alternatif parfois.
C'est de la mélodie techno, je sais pas, c'est un peu.
Il y a du alternatif parce que c'est la frontière avec
le rock. C'est
ça,
c'est alternatif quoi. Ouais.
Donc c'est vrai que c'est assez complexe à définir, mais c'est bien d'avoir la vision de l'artiste sur ce qu'il fait quand même.
Ouais, après évidemment ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux que j'ai sortis qui se rapprochent plus d'un truc mélodique techno, comme ce que j'ai sorti sur la compile de Heartbat. C'est vrai que ce morceau Take It, il est un peu mélodique techno dans sa construction et dans son inspiration aussi. Et d'autres beaucoup moins, Where We Belong, mon dernier single. Celui-là, je trouve que c'est pas.
C'est toi et toi, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Non, j'essaie justement de jamais me dire que je fais un morceau pour un label, parce que du coup, ça voudrait dire que je perds une partie de ma personnalité et ça, c'est dommage.
Puisqu'on est sur Where We Belong, ça a quand même marqué un peu une évolution entre avant ce que tu produisais et après. Comment ça s'est passé pour toi d'arriver un peu à ce déclic en disant « Ok, bah là, je change quand même un petit peu mon univers, je reparamètre un peu tout. » Ça s'est fait spontanément.
Ah oui, tu trouves que c'est très différent de...
Ouais. Okay. Y a une, enfin, pour moi, il y a un équilibre qui est beaucoup moins... Il y avait, disons, une volonté exploratoire, mais dans ce qui était en... Je sais pas comment dire, la descente, en fait. Dans quelque chose d'aller dans, vraiment dans les bases, dans quelque chose de plus sombre. Ouais. Dans les paroles aussi, notamment, qui étaient plus, comme je disais, parfois nostalgiques. Mais pas dans quelque chose de triste, mais dans quelque chose de regret ou un peu... Enfin, disons, un peu avec... C'est pas de la tristesse non plus. Je dirais vraiment de la nostalgie poétique. Mmh. Et Where We Belong, il y a une façon d'aller de l'avant, même dans l'instrumentation, la façon dont tu le fais, qui est vraiment pour moi différente. C'est un peu une assertion de qui tu es sans être trop, sans regarder en arrière en fait. Mmh. C'est Orphée qui se met à regarder devant. C'est ça. Je finis ma métaphore. Est-ce que tu trouves que ça correspond? Et pour toi, comment ça s'est passé pour la production de cette EP-là? Enfin, de ce morceau en particulier.
En fait, je pense que ce qui se ressent dans le morceau, c'est que c'est un morceau qui a beaucoup de... pas de nostalgie, mais du coup de l'espoir plutôt.
Oui.
Donc c'est ça le côté un peu aller de l'avant. Mais pour le coup, c'est la même chose que j'avais voulu faire avec Consequences, qui était vraiment un morceau pour aller de l'avant, le démarrage de quelque chose, mettre de côté les conséquences de ce qu'on peut faire. Donc il y a un peu, on retrouve quand même le même esprit. Après, Where We Belong est moins acoustique, je dirais, que Consequences. Moi, je me souviens, c'est un morceau que j'ai fait très vite. Je produis assez vite en général.
C'est-à-dire d'où les 10 productions déjà sorties depuis l'année dernière.
Et encore, j'en ai plein. Mais là, j'essaye de prendre un peu plus mon temps. Mais en fait, ma façon de produire, c'est plutôt de tout le temps faire plein de morceaux. Et pour moi, pour que ce soit un bon morceau, il faut que ce soit facile. C'est-à-dire que...
De ne pas revenir 20 fois dessus, en fait.
C'est ça. En fait, si je suis en train de galérer dessus, de chercher 20 fois des choses, etc., et que je ne suis pas sûr... Et en fait, mes morceaux, dès que je les finis, je les exporte et je les écoute partout, tout le temps. Jusqu'à vraiment presque me rendre malade.
Non, mais pour voir s'il fit partout, en fait.
Ouais, parce qu'en fait, ce sera la même chose pour les gens. Et c'est la même chose quand on écoute de la musique. En fait, si un morceau, je l'écoute 5-10 fois et j'en ai marre, je ne veux plus l'écouter. Bah, je ne veux plus l'écouter. Donc, c'est peut-être pas un morceau excellent, quoi.
C'est vrai. Et alors que quand il est réécoutable à l'infini, partout, et que t'en lasses pas, normalement, tu pourras le jouer, toi aussi, d'ailleurs, en live de plein de façons différentes et tu t'en lasseras pas non plus.
Bien sûr. Et je suis censé être le premier à aimer ma musique quand même.
Quand
donc,
même.
Donc c'est quand même important, quoi.
C'est sûr.
Donc voilà, Where We Belong, ça fait super vite. En fait, j'ai écrit les premières cordes, j'ai commencé à chanter dessus et je crois qu'en 2-3 heures, le morceau, il était fait dans quasiment sa totalité. Après, j'ai retouché 2-3 trucs et puis voilà, quoi.
Et Consequences, ça a été pareil parce que moi, c'est mes deux préférés.
Consequences, c'était pareil.
Mes deux préférés, c'est Where We Belong et Consequences et... Il y en a deux ensuite, mais c'est qui sont dans le même esprit aussi. J'ai l'impression que t'as quand même aussi des familles de... On en parlera avec les paroles, de composition et de façon de faire. Et ça a été aussi vite, donc Where We Belong
Ça a été assez rapide, ouais. Aussi, pareil. J'avais commencé à la guitare, pour le coup, celui-là. Et après, j'ai enregistré... En fait, souvent, je compose d'abord à la guitare, le chant et la composition principale, donc juste les accords et un peu la structure, comment le morceau va se dérouler. Et après, je transpose sur le logiciel.
Oui, donc c'est quand même d'abord organique et ça s'entend quand même aussi.
Oui. J'aime bien commencer comme ça parce que je trouve qu'il y a une inspiration vraiment différente de s'asseoir sur un canapé ou se poser même dehors, ou, enfin même debout ici dans la pièce avec la fenêtre ouverte, avoir un peu d'inspiration et plutôt qu'avoir en fait un écran. Parce que déjà, je vais passer des heures après l'écran pour agencer plein de choses, etc. Et je trouve que sortir de l'écran, ça ajoute quelque chose. En tout cas, pour moi, je suis sûr qu'il y a des gens... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui produisent des trucs incroyables en partant de juste la grille Ableton et ils commencent
à... Et qui sont parfois aussi obligés, mais tant mieux, enfin, dans leur composition, d'aller en studio parce qu'eux, ils se mettent dans un cadre sans lumière, etc. Et ils se mettent dans un tunnel de compo. Et parfois, ils font un morceau. Enfin, il y a eu des artistes dans la saison 1 qui nous l'ont expliqué. En 24 heures, ils font quelque chose en disant, bon, là, on s'y met, on fait. Et ça, voilà.
Ouais, c'est ça.
C'est chacun un peu sa manière de faire. Mais toi, c'est plutôt la fenêtre ouverte et sur le canapé.
Ça peut, après, ça peut aller, ça va vite aussi. Bon, c'est juste que pour le démarrage, je préfère avoir l'idée de base ailleurs, en fait. Et ça, c'est un truc aussi que j'essaye de presque forcer, en fait, parce qu'ensuite, j'ai eu une phase où j'ai fait énormément de morceaux, pour le coup, en commençant sur Ableton, en mode club, avec tout de suite un beat, une basse, et OK, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et quand je fais ça, je me rends compte que je fais des morceaux moins intéressants, qui ont une histoire, qui pourraient marcher en club, mais qui sont moins, enfin, en tout cas, pour moi, moins personnels et qui racontent moins une histoire. Et ça, c'est super important pour moi, et j'ai envie de garder ça à fond.
Et où, en plus, comme tu l'as expliqué, comme à partir du moment où tu es sur Ableton et sur l'ordi, tu te prends peut-être plus la tête aussi, ça te permet de composer ton morceau sans faire les allers-retours que tu expliquais, où en fait à la fin tu te dis, mais en fait j'ai même plus le morceau, j'ai tellement été dessus, j'ai tellement revu que j'ai plus envie de le sortir et je préfère faire autre chose, quoi.
Et maintenant j'ai changé un tout petit peu mon approche très récemment où je prends plus le temps, c'est-à-dire que j'attends pas juste d'avoir une idée, quelques accords et des paroles et je passe. je compose vraiment toute la chanson d'abord, l'écriture, les notes, etc. Puis ensuite, je transpose la chanson presque en acoustique dans Ableton, c'est-à-dire pareil avec une structure de base, juste un sample de batterie pour ne pas me prendre la tête sur ces détails pour le départ. Et une fois que j'ai bien le truc, là, je commence à vraiment produire tout le reste qui va aller par-dessus, etc. Pour en fait rester sur un thème qui marche, c'est-à-dire une musique de base où on est transporté juste par les accords, les paroles et l'enchaînement de tout ça. Et après, tout ce qui va autour, c'est juste la production.
La rythmique et tout ce qui est peut-être plus le côté électro-pur, comme on en parlait, ça vient après, quoi.
Oui, et puis ça, après, c'est juste... Oui, c'est de la production, quoi. Oui. Donc, c'est moins... C'est évidemment créatif, mais
c'est... Mais c'est pas le cœur du réacteur.
C'est ça, exactement. Ouais. Hein, en tout cas, pour moi, ça, c'est vraiment très personnel comme truc. Et je sais qu'il y a plein d'autres méthodes qui marchent très bien pour plein d'autres gens, mais... J'ai l'impression en tout cas que c'est ce qui marche le mieux pour moi.
Je trouve que dans Where We Belong, justement, d'où ma question, ça s'entend vraiment en fait, que t'as ce travail plus organique et que c'est pour ça aussi que t'as un morceau qui affirme vraiment une identité artistique où on dit ok, bah, ouais. Je me suis trouvé, maintenant je sais comment je fais, je sais ce qui marche pour moi, je sais ce qui me plaît et je sais aussi que là je peux faire un EP entier comme ça, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est vrai que c'est, enfin, bravo parce que c'est hyper en plus et merci d'avoir partagé la façon dont tu t'y es pris.
Avec plaisir. Ouais.
Et d'ailleurs, parlant de tes productions, il y a eu un déclic quand même parce que Consequences, moi je l'ai entendu, alors je veux dire, pour la première fois à Cercle, joué par Agoria devant la Fusarian. Mais le truc, enfin, c'était incroyable et là, les gens ne connaissaient pas le morceau, ça sentait que c'était pas, tu vois, ils n'avaient pas tellement connaissance et en fait, ils ont tous, mais enfin, il y a eu une réaction en public qui était assez impressionnante et je me suis dit, bon, en fait, comment est-ce qu'il est arrivé là? Est-ce qu'il y a eu un déclic de « Ok, maintenant, je vais envoyer mes productions » ou « Maintenant, je vais contacter Sapiens parce que je me sens prêt » ou « Parce que j'ai rencontré quelqu'un ». Enfin, comment ça s'est passé, Consequences? Parce que c'est le début vraiment de, de un peu du tourbillon dans lequel tu es depuis un an.
Ouais, c'est complètement le début. Alors en fait, bon, moi, j'avais un autre projet de musique avant qui a pris fin. Et du coup, j'ai pris quelques mois de pause, on va dire. Et après, j'ai décidé de relancer un projet musical. À ce moment-là, j'ai essayé vraiment de me dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et j'avais envie de... ce dont on parle depuis tout à l'heure, un peu mêler ce côté, toutes mes influences et en même temps faire quelque chose d'un peu dense quand même. J'avais pas envie que ce soit un truc down tempo.
Trop méditatif.
C'est ça, j'avais pas envie que ce soit un truc trop lent, même si j'aime bien les formats écoute, mais j'avais envie de, quand même de derrière pouvoir faire un live et jouer dans des clubs, jouer dans des festivals, faire danser les gens en fait. Donc vraiment essayer de mêler les deux. Et j'ai commencé à bosser sur quelques démos, dont Consequences. Et en fait, du coup, j'ai joué au Scorpios avant même de sortir les musiques parce que je connaissais bien le DA, etc. Et je lui avais fait écouter, du coup, via mon agent avec qui je bosse maintenant depuis un moment, ces démos-là. Il avait dit « Ok, viens jouer live au Scorpios ». Et j'étais là-bas, je me souviens, j'avais joué la veille. Et là, je vois un post d'Agoria qui dit « Je joue ce soir, c'était où ? Au kilomètre 25, je crois ». Envoyez-moi des démos si vous voulez. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais essayer, on sait jamais. Et du coup, j'ai envoyé mon EP. Quand je me suis réveillé le lendemain, il m'avait répondu, il avait dit, génial, j'adore, je vais les jouer et tout. Il avait mis une story où il avait mis, gonna play this jam tonight et tout. Je me suis dit, ah, trop cool et tout. Et après, on s'est appelé, il m'a dit, bah, je voudrais te signer sur Sapiens et tout. Donc voilà, c'est parti de là.
Trop bien. Et on ne dira jamais assez qu'en ce moment, ce qui se passe pour toi comme pour pas mal d'artistes, il y a des demandes spontanées de très grands artistes. Je pense à Adam Porte aussi, qui a dit que maintenant, il le prenait exclusivement que des collaborations qui lui étaient envoyées par ce biais-là, c'est-à-dire en spontané, et qu'il trouvait des pépites et qu'il était toujours heureux d'avoir ce genre de découverte plutôt que de jouer les mêmes promos qu'on lui envoie tout le temps. Et il fait maintenant, il y a un équilibre, il dit qu'il fait deux tiers de collab spontanés et un tiers de ce qu'on peut lui envoyer, quoi. Mais c'est toujours important en fait de penser à envoyer les morceaux, même si on se dit il va pas forcément me prendre et puis voilà, mais au moins d'envoyer ce qu'on fait, quoi.
En fait, c'est hyper important. On peut souvent penser que tout est inaccessible et que c'est compliqué, qu'en fait personne va jamais écouter, etc. Mais finalement, en fait, les grands DJ, ils ont besoin de nouvelle musique, donc ils écoutent. Franchement, ils écoutent.
C'est une grande partie de leur travail, quand même.
Bah oui, voilà. Évidemment, il y a plein de fois où ils ne vont pas écouter parce qu'il y a juste eu trop de demandes ce jour-là, où ils sont en train de voyager à ce moment-là, donc machin. Mais c'est sûr que c'est super important d'envoyer, partager ce qu'on fait. Parce qu'en fait, si tu as fait un super morceau, mais tu l'écoutes tout seul dans ta chambre et que personne ne l'écoute, bah, il va rien se passer, quoi.
Donc, c'est sûr. Et il y a aussi une façon de en fait, rentrer quand même dans cet univers qui est... On peut rentrer par le digital, mais c'est aussi intéressant d'avoir un label comme un Sapiens qui est quand même... qui a toutes les connexions, et puis un grand artiste comme Agoria qui dit ok, je vais te jouer devant je sais plus combien, il va cercle 20 000 personnes, enfin, c'est quand même super.
Ah bah oui, c'est hyper cool pour moi parce qu'en fait après ça a été un enchaînement, donc le morceau est sorti, enfin l'EP est sorti, et Consequences après en fait a été joué par Adriatic, dans beaucoup, beaucoup d'endroits avec des vidéos partout et tout. Donc ça, pareil, ça a donné beaucoup de... Bah, ça donne une certaine place sur l'espace un peu de ce type de musique. Et du coup, après, en fait, il y a leur ANR qui m'a contacté, qui m'a dit bah, si tu as des démos pour Siamese, ça nous intéresse, etc.
Tu as répondu à ma question suivante.
Ça a été fait logiquement, donc oui. Du coup, ça marche. Et du coup, voilà, je leur ai envoyé des démos, on a pas mal échangé. En même temps, moi, j'avais commencé à discuter avec Lossless.
Oui.
On avait échangé 2-3 démos. En fait, on se connaissait de longue date et on ne s'était pas parlé depuis très longtemps. Et là, en fait, on s'est reparlé sur Instagram. Et ça a tout de suite vachement matché nos univers de musique et tout. Donc, on a commencé à bosser ensemble. Et c'était au même moment où Adriatic me demandait des démos. Et lui avait pour objectif d'envoyer à Adriatic. On s'est dit, OK, bah, faisons un truc ensemble.
Ensemble, qu'on va leur envoyer. Et puis voilà.
C'est ça. Voilà. Et à côté de ça, j'ai fait un peu de musique avec Mowgli aussi,
oui.
Qui est devenu un super pote. Donc ça franchement je suis hyper content aussi parce que moi à la base je viens pas forcément d'un milieu musical on va dire et je faisais pas du tout que ça avant donc maintenant je trouve ça hyper cool en fait d'être dans cette espèce d'espace avec plein d'autres potes
mais qui vous sont aussi inspirez des super mutuellement. Musiciens ouais.
et on peut s'entraider et c'est super cool de pouvoir se faire écouter des trucs, avoir des avis un peu différents en fonction des styles de chacun etc quoi.
Et le morceau dont tu parles avec Lozé, c'est celui qui vient de sortir ?
Ouais, c'est l'EP qui est un EP collaboratif. Donc il y a un single chacun. Moi, mon single, c'est Where We Belong. Lui, c'est Concentrate. Et ensuite, on a 2 collabs ensemble, Ubiquity et Something I See. À la base, il y avait 4 morceaux. Et finalement, on a enlevé 2 pour mettre un single chacun dans l'EP.
D'accord. Mais un vrai travail de collaboration, pour le coup.
Ouais. C'était un vrai travail de collaboration. Et c'est devenu pareil, un super pod. Et là, après cette sortie, maintenant... donc je suis un peu en train de me demander ce que va être la suite.
T'as travaillé avec Marino Canal aussi récemment.
Oui. Exactement, avec Marino Canal on a fait quelques morceaux, on verra quand ça sort, ça prend toujours du temps de toute façon, toutes ces collaborations. La collaboration avec Lossless, elle avait démarré plus d'un an avant la sortie officielle.
Oui.
Donc il y a ce projet avec Marino Canal qui est vraiment cool, moi c'est un artiste que j'adore en fait depuis super longtemps, donc je suis vraiment content de faire des trucs avec lui.
Bah, il a travaillé avec Adriatic aussi, donc
ouais,
ça fait sens.
Il a pas mal bossé avec Adriatic, donc ça a du sens dans le Siamese, etc. Et après, là, normalement, je vais aussi bosser sur un truc avec Sainte-Vie.
Oui.
Donc, pareil, on va voir ce que ça donne, hein, mais c'est cool. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup aussi. On s'est rencontrés en Turquie l'an dernier, et ça a vachement fitté. D'ailleurs, il m'a invité là où je joue à New York, c'est à son événement à Kumandra, où je vais jouer... Donc à Brooklyn, à Knockdown Center. Donc ça, j'ai vraiment hâte aussi. Ça va être
et c'est quand soirée. Ça c'est le, mois
c'est le 22 juillet.
22 juillet, d'accord.
Ouais, 22 juillet à New York.
Quand on parle d'ailleurs d'évolution, ton univers à toi, t'étais quand même sur quelque chose d'assez... au départ, tu m'as dit la voix et la guitare, c'est un peu le centre de ce que tu fais.
Finalement, la guitare, c'est un élément central dans la composition, mais aujourd'hui, il n'y a aucun de mes morceaux, il y a une guitare enregistrée.
D'accord.
En fait. Donc je l'utilise en live. J'utilise
oui, mais pas en...
Et pour l'instant, je ne l'ai jamais fait dans une prod. Alors là, je suis en train de bosser sur un nouveau morceau. Pour le coup, je l'intègre parce que j'ai envie de sortir un peu du format DJ.
Oui.
Rester dans la musique électronique, mais pas forcément faire une intro avec un kick directement sur 16 bars pour que quelqu'un puisse le mixer facilement, etc. Donc, en mettant ça un peu de côté. Et du coup, ouais, pourquoi pas des intros à la guitare. C'est comme ça, franchement, j'explore et je me laisse un peu plus aller, quoi.
Oui, parce qu'il y a des duos comme Wham qui sont vraiment sur de la guitare un peu psyché. Et je me suis dit à un moment que ça allait arriver chez toi, que le côté Pink Floyd allait revenir un petit peu parce que t'as cette identité-là artistique.
Oui, bien
aussi.
Sûr. Bah en live, je le fais vachement.
En
live,
mais pas en prod vachement. Encore.
Pas encore, ouais.
Enfin, pour moi, il y a le côté rock vraiment bien inclus dans ce côté électro. Pour moi, ça va. Enfin, c'est assez parent, en fait. La façon dont vous travaillez. Et bah d'ailleurs toi en fait t'es multi-instrumentiste, enfin pour moi c'est comme ça que je te définis. Parce que tous les artistes ne font pas ça, t'es un peu ton chef d'orchestre et puis c'est toi qui un peu comme tu l'as expliqué qui définit dans quelle mesure tu vas travailler sur tel et tel type d'instrument. Pour toi l'équilibre entre disons voix et on l'a déjà dit mais tout ce qui est Ableton etc. Ça se gère comment en live par rapport à la prod en fait? Tu décides sur le moment ou pas, t'as déjà une partie prévue, ça, ok.
Ouais.
Mais en me disant, ok, là, en fait, pour cet endroit-là, j'ai plus envie d'être dans quelque chose de plus rock et de plus organique. Et là, je suis à la limite du DJ set, mais j'ai quand même envie de mettre tel ou tel instrument.
En fait, pour ça, ce que je fais dans la construction des morceaux, souvent, c'est qu'il y a des breaks. J'aime bien les breaks assez longs. Donc, j'aime bien des breaks où il y a du chant qui arrive et il y a une grosse montée et ça prend du temps. Et donc, ça permet même dans un environnement très club de faire une partie, en fait, une sorte d'interlude acoustique dans pas mal de morceaux. Enfin, en tout cas, un truc plus organique. Après, au niveau de vraiment ce qui est improvisation, ce qui est préparé, etc., dans le live, en fait, j'ai deux types de morceaux. Il y en a qui vont être vraiment des jams entiers. Donc, okay. J'ai juste des clips et après, je vois où ça me mène. Et si à un moment, j'ai envie de chanter quelque chose, je le fais. Si je joue de la guitare, je le fais. Sinon, je joue du synthé. Ça dépend, en fait. Et il y en a d'autres où, pour le coup, c'est le morceau tel qu'il est que je vais performer en live, en fait.
Okay.
Donc, j'exporte le morceau, j'enlève certaines parties que je fais en live, le chant, des synthés, etc. Souvent, je les réadapte quand même un peu pour le live, qui sont un peu plus longs, des trucs un peu différents. Mais du coup, l'objectif, c'est un peu ce que je disais au début, c'est trouver cette jauge entre à la fois proposer ce que je représente, donc des morceaux qui sont déjà sortis et que les gens écoutent et qu'ils ont envie de retrouver en live, et à la fois un truc aussi parfois plus amusant et plus risqué où je vais complètement improviser quelque chose.
Ouais, mais c'est là où c'est sympa, c'est de prendre des risques aussi, ce qui t'évite de refaire la même chose et donc d'être complètement dans ce que
après,
tu fais.
Après, les deux sont bien parce que, par exemple, We Belong, j'adore la jouer telle quelle et c'est quand même de toute façon très différent de jouer le morceau en live devant des gens, voir comment ils réagissent, etc. Les deux sont cool et c'est bien d'avoir ces deux-là dans le live. J'aimerais pas avoir que l'un ou que l'autre.
Non, ce que je comprends, alors après, il y a une comparaison qu'on te fait beaucoup, alors on va en parler maintenant, qui est avec Monolink, qui a aussi cette façon de travailler. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui, pour toi, ont cette façon de travailler que tu as regardé, où tu t'es dit, ah oui, ça m'intéresse, ça aussi, j'aimerais performer comme ça. Enfin...
Ouais, il y en a pas mal. J'en parlais un peu au début, mais Bob Moses, je pense qu'ils ont un truc un peu comme ça. Aujourd'hui, ils sont plus... Ils ont fait pas mal de trucs, ils sont passés par un band... complètement, donc ils avaient le batteur et tout machin. Ils sont revenus vers un truc un peu plus club où ils chantent par-dessus les morceaux que l'autre mixe en fait, en mode DJ. Il y avait Jan Blomqvist au début aussi.
Oui, au début.
Qui faisait des trucs un peu avec un batteur, etc. Et maintenant, qui fait quelque chose de similaire et qui, à mon avis, a une approche similaire dans la composition, etc. Je saurais pas trop dire.
Non, mais ça me suffit. C'était juste d'avoir d'autres artistes comme Monolink parce que
je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, mais je les connais pas tous.
Oui, mais c'est pas du fait que t'as ta voix qui est tellement présente, tu vois. Comme Monolink, en fait, pour moi, c'est une grande partie de votre identité et qu'elle est très très distinctive. En fait, on te reconnaît tout de suite. C'était la comparaison est assez rapide, mais je voulais voir s'il y en avait d'autres à faire et que ce soit toi qui les fasses, ou pas les autres en fait.
Non, franchement, j'ai pas d'autres trucs en tête. Après, à la base, moi, j'avais pas lancé ce projet en me disant je vais faire comme Monolink.
Non, bien sûr que non.
Projet parce que j'ai mon truc, et c'est vrai que oui, dans l'approche, c'est assez similaire, ouais.
Et dans les paroles, parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, la façon dont t'écris, est-ce que t'as tes thèmes et comment est-ce que tes thèmes de départ ont évolué jusqu'à maintenant? D'écriture.
Dans les deux cas, Consequences et We Belong, c'est un truc assez personnel pour le coup. Peut-être que We Belong est un peu plus fort en termes d'émotion, peut-être. C'est le morceau qui est comme ça aussi. En fait, Consequences avait pour but d'être un truc un peu festif, qui progresse en même temps avec de l'espoir. Et We Belong, c'était un truc assez puissant, même dans les accords, dans les paroles, etc. En fait, l'espèce de pseudo-refrain que je fais, j'ai layer beaucoup de fois ma voix, justement pour avoir ce côté cœur qui est assez puissant. Pour les paroles, en fait, je m'inspire. J'aime pas m'inspirer de trucs précis, mais plus d'un sentiment général. Et après, pour d'autres chansons, ce que je fais souvent, c'est pas forcément penser à moi ou des trucs personnels, mais imaginer des histoires fictives qui me touchent.
Ok, donc t'écris aussi des histoires à toi ? Enfin, des trucs pas pour toi ou c'est... Et ça te fait une base de chansons ou tu vas direct sur la chanson ? Parce qu'il y a je sais qu'il y a des artistes qui écrivent sur d'autres, enfin tu vois, qui se font des espèces de mini scénarios, parfois de base sur quelque chose qu'ils ont vécu, entendu, voilà, et qui ensuite en font les paroles telles quelles.
Enfin, c'est ça. En fait, parfois j'ai des scénarios, des sujets que je trouve intéressants ou une émotion que je trouve intéressante, et j'essaye d'écrire une sorte d'histoire là-dessus, quoi.
Non, mais ça va
peut,
assez vite.
Ça peut ne pas forcément être un truc sur moi, ça peut être juste un truc en général dans la vie qui me touche, quoi.
Et dans ce que tu sens, on voit autour de toi, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Mais ça va aussi, enfin, c'est écrit, t'écris en même temps, et en gros, quand tu me dis un morceau, je peux le faire en 3-4 heures.
Ouais.
Voilà, les paroles aussi, du coup. Tu fais
tout en même temps. Bien sûr. Ouais. Au début, ça peut arriver qu'au début, je chante un espèce de yaourt. Mais c'est ça qui est marrant d'ailleurs aussi, c'est que souvent, ce qui m'arrive, c'est que je chante. En fait, je me dis, je vais chanter, je vais essayer de trouver une top line, un air cool. Et je chante des trucs au hasard.
En fait, le hasard est juste.
Porté par la musique derrière, je réécoute et je me dis, mais en fait, c'est pas mal ça et tout. Et donc, je garde en fait. Et souvent, c'est ça qui crée le fil conducteur de l'histoire. Et c'est à partir de là que j'écris le reste des paroles. En fait, souvent, il y a une phrase ou un truc qui me marque. Parce que je trouve que c'est hyper important aussi, évidemment, d'avoir comment s'agence les paroles, comment elles sonnent aussi musicalement, comment les mots sonnent entre eux, etc. Et c'est ça qui fait que le truc peut être plus fort.
Oui, et puis d'où l'harmonie qu'on sent à la fin dans le morceau. Enfin, en tout cas, en ce qui te concerne, il y a vraiment un super équilibre entre les paroles et tout ce qui est la rythmique, disons. Et on voit qu'il y a une composition un peu organique et c'est intéressant de voir comment tu gères ça. T'as joué à l'étranger aussi pas mal ces temps-ci. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué ? Enfin, ces temps-ci. Disons, tu as joué avant même. Je pense que t'as eu quand même.
Principalement à l'étranger.
Tourné l'année dernière aussi. Donc,
ouais, ouais. En fait, je joue principalement à l'étranger.
Et plus qu'en France.
Ouais, ouais. Les scènes que j'aime beaucoup.
Scorpios, on a dit.
Scorpios, c'est toujours très cool. J'aime beaucoup la Turquie. J'ai joué pas mal de fois sur des grosses scènes et je vais retourner cet été avec un promoteur qui s'appelle Generic Music. J'avais joué juste avant Monoling d'ailleurs l'été dernier et là je vais faire un mini tour, donc on va faire Çeşme, Bodrum, Istanbul.
Très très bien Çeşme.
Ouais, on a un week-end donc ça va être sportif et cool. En fait Scorpio c'est très spécial pour le coup, mais pour tout le reste moi j'ai quand même un live qui a pas mal d'énergie, donc c'est un truc quand même assez club et c'est le but du projet en fait, c'est d'être un truc club en fait, avec ce côté, toutes ces influences, mais pas tomber dans le live acoustique. Enfin, on voit même des artistes aujourd'hui comme Monoling, Bob Moses, etc. Ils font des live clubs.
Oui, tout à fait.
Ils jouent sur des gros stages. Et je pense que c'est aussi un peu ce qui se passe. On a tous ressenti ça, j'ai l'impression. Et le public aussi, c'est cette sortie de Covid où les gens ont été bloqués pendant un moment et maintenant ils ont envie de danser, quoi. Ils ont envie que ça bouge. Et je trouve qu'il y a une espèce du coup de vague en termes de BPM, j'ai l'impression que les choses ont évolué vers des trucs un peu plus rapides et un peu plus énergie.
Oui, on l'a vu récemment dans les festivals. Bah, t'as fait Rituel d'ailleurs, c'était un peu comme ça.
Ouais, ah oui, Rituel, c'était incroyable. C'était un peu mon highlight. C'est le dernier gros highlight que j'ai eu.
Parce que je voulais le mettre en référence pour, tu vois, si t'avais un set de référence, pour moi, c'était quand même assez intéressant d'avoir celui-là.
Ouais, Rituel, c'était vraiment incroyable. Il y avait une énergie de folie. Je jouais juste avant Hunter Game et il y avait Mind Against après qui jouait. Et c'était sur la main stage, ça fait un moment que je les connais et tout, donc ça faisait plaisir de jouer pour c'était la dernière édition en plus. Donc ouais, non, franchement, c'était incroyable.
Donc on peut mettre ton live de Rituel dans les
notes. On peut le mettre carrément, ouais.
On parlait déjà d'inspiration tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres inspirations artistiques? Parce que je sais que tu aimes bien l'art et que tu t'intéresses à pas mal de choses autres que la musique.
Ouais.
Est-ce que tu as un peu d'autres domaines où tu dis, je vais aller regarder tel tableau, ou je vais aller... Je vais aller lire tel auteur, enfin, je sais pas, des trucs qui sont pas musique, quoi.
Oui, il y en a pas mal. J'aime beaucoup tout ce qui est lié à la technologie en général. Et donc, du coup, j'avais sorti d'ailleurs des NFT sur Sapiens.
D'accord,
Algoria m'avait un peu aidé là-dessus, c'était assez cool. Donc, j'avais bossé sur ce projet-là. Parce qu'en fait, moi, je fais des trucs visuels aussi. J'aime beaucoup bosser là-dessus. Donc, je fais de la 3D. Je fais un peu des compositions aussi sur Photoshop, etc.
Et on peut les voir, à part le projet Sapiens, d'ailleurs, il est sorti.
Il était sorti sur Foundation. J'ai mis 4 NFT qui sont liés au morceau qui étaient aux enchères dessus. Là, je bosse sur un autre projet qui va être un peu similaire avec un artiste qui s'appelle Florian Zumbroom, qui est un très bon ami à moi, qui est assez fort. Lui, il est sorti sur Artblocks, qui est un peu une référence à NFT. Il a été curated dessus.
C'est canon, parce qu'effectivement, c'est un peu... Enfin, c'est la galerie d'art contemporain évolutive.
C'est ça, exactement. Et c'est un peu la figure de proue en ce moment de tout ce qui est ce qu'on appelle le génératif, en fait. Et du coup, on est en train de bosser sur un projet ensemble où on va créer un projet visuel et audio complètement génératif. On est en train de construire quelque chose où l'audio va réagir au visuel qui va être créé. Donc, le visuel est lui-même créé par du code. Et une fois que ce visuel est créé, en fait, il y a des algorithmes qui vont aller checker, par exemple, la couleur, la densité de l'œuvre visuelle, etc. Et en fonction de ça, qui vont créer l'audio. Donc, en fait, c'est l'audio qui va vraiment réagir au visuel et tout automatiquement avec du code.
Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'un artiste pour moi, organique comme toi, est tout à fait à l'aise avec ce genre de production. Ça te stresse pas du tout, en fait.
Non, pas du tout.
Les machines vont produire à notre place. Enfin, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment des réactions différentes selon aussi les générations d'artistes et la façon d'aborder cet univers-là. Et pour toi, c'est complètement, enfin, complémentaire, c'est un autre domaine, quoi.
Ouais, non, pour moi, c'est un peu. En fait, j'ai pas peur du futur avec des machines, etc. Du tout, en fait. Moi, j'adore ça. J'ai bossé là-dedans, en fait, avant, pendant longtemps aussi. Tout ce qui est
assez familier avec ça.
Au contraire, moi, je pense que c'est un truc qui va permettre aux artistes d'être un peu des artistes décuplés au plus fort, pouvoir aller plus vite, pouvoir faire plus de choses, avoir plus d'inspiration, etc. Donc, non, moi, je me documente là-dessus en permanence. C'est un truc qui m'intéresse énormément et je l'utilise, en fait, au maximum dans mes productions, quoi.
Ouais, puis c'est marrant que tu aies été signé en premier sur le label d'un des artistes qui, lui, utilise ça complètement sans même savoir. J'imagine que vous aviez ce truc-là en commun.
Non, au début,
je savais
pas trop. Non, c'est vrai. On a discuté après.
Ah, c'est une bonne surprise. Et par rapport, justement, on parlait un peu de la façon dont tu représentes une certaine façon de composer, de faire de la musique. Tu as une carte de visite musicale très distinctive. Quelles sont les valeurs et le projet que tu as envie de défendre à travers Romanekin? Parce que c'est quand même il y a un projet avec un ethos. Tu en parles quand même dans ta bio. Donc, qu'est-ce que c'est un peu le projet et les valeurs que tu défends?
Le truc le plus important pour moi, c'est de rester fidèle à la musique en tant que musicien. Donc, c'est un peu ce que je disais, c'est j'ai vraiment envie d'avoir cette approche où les morceaux ne sont pas forcément des tracks complètement club, même si j'en ai fait et j'en ferai sûrement d'autres, mais que le truc principal, ça reste un truc de composition, un truc de musicien, jouer en live, avoir vraiment cette approche-là et pas rester enfermé dans un truc trop électronique, en fait. Parce que comme je le disais, ça prend énormément de temps. Donc à partir du moment où même j'ai fini, ça ne veut pas du tout dire que ça va sortir tout de suite. Et à côté, bien sûr poursuivre les collabs qui ont été démarrés et voir où ça mène, quoi.
Et puis il y a aussi le live sur lequel tu travailles beaucoup en ce moment.
Et le live qui est vraiment le truc le plus important pour moi parce que finalement, c'est le moment où je communique vraiment avec le public. Et c'est là où je pense que c'est la meilleure façon de montrer la musique, montrer un show. Montrer qu'il y a ce truc auquel je crois qu'on peut faire en fait une scène de musique électronique où il y a des musiciens dedans, donc voilà, quoi.
Oui, on espère que tu vas refaire un live en France bientôt aussi.
J'en ai un qui est prévu d'ailleurs le 2 juillet à Madame Loyal.
D'accord.
Donc ça va être vraiment cool sur la main stage aussi où il y aura après Trick et Am qui jouent et encore Mind Again, je crois d'ailleurs. Donc je serai sur cette scène et ça va être hyper cool.
Super, on a hâte et je pense qu'on sortira l'épisode au même moment. Donc comme ça, parfait. On pourra avoir un petit lien pour aller te voir là-bas.
Super.
Et pour finir, en reverb, est-ce que tu as une question que j'aurais oublié de poser ou que tu voudrais me poser?
J'essaie de réfléchir, mais
pas de mon espagnol, je peux.
Non,
c'était une blague
pas...
avec Roman depuis Marvelous Island il y a 3 jours. 2 jours.
Non, en espagnol, non, je vais pas, je pourrais, hein, mais... En fait, moi, j'ai grandi toute ma vie en Amérique latine et en Espagne. Donc, en fait, j'ai grandi au Chili, au Mexique, à Barcelone.
Mais tu pourrais écrire en espagnol aussi.
Pourrais écrire en espagnol, ouais. Ça m'est déjà venu à l'esprit. Mais je pense que j'écrirai d'abord en français avant d'écrire un truc en espagnol.
Okay.
Et encore, pas sûr que je fasse en français non plus. Donc,
ça marche.
On verra.
T'as une autre question ?
Non, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour de tous les trucs.
Super.
Merci beaucoup, en tout cas.
Mais merci à toi. Vraiment, c'était une complète rencontre avec Romanekin. C'était un plaisir d'enregistrer ce 3e épisode de Track Record avec toi. On te souhaite le meilleur pour la suite et on a hâte de t'écouter en live.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre et à nous partager sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi mettre des étoiles pour dire que vous avez beaucoup aimé. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram @trackrecorddj pour découvrir la playlist de notre invité ainsi que des contenus vidéo inédits. À très vite pour un nouvel épisode de Track Record.